nous a donné envie d'inviter Vivien, c'est la thématique qu'il avait choisie par rapport à son livre, Les territoires face au grand marché transatlantique, résistance locale face à une menace globale, puisqu'il s'est attaché à traiter particulièrement, et il est le seul à l'avoir fait jusqu'à aujourd'hui, il s'est attaché à traiter particulièrement l'impact local qu'auront les accords de libre-échange CETA et TAFTA lorsqu'ils seront en application. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, je vais laisser la parole à Vivien qui va lui-même se présenter et nous expliquer son travail.
Bonjour, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, sachez que le TAFTA est un projet d'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, et le CETA, un traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, signé le 30 octobre 2016.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et toutes d'être ici. Merci beaucoup au collectif Stop TAFTA 44 de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Vivien Rebière, j'ai 25 ans, je travaille en collectivité territoriale, je suis diplômé de sciences politiques. Et donc, j'ai voulu m'intéresser aux conséquences locales du traité transatlantique qui était en négociation, parce qu'il me semblait que c'était peut-être, sinon un manque, au moins un aspect qui n'était pas trop étudié jusqu'alors par la plupart des ONG, par la plupart des bouquins qui étaient sortis. Souvent, sur la question du grand marché transatlantique, on parlait des questions environnementales, on parlait des questions des normes sociales, ou on parlait de l'agriculture beaucoup. Mais on parlait assez peu des conséquences sur les services publics locaux, ce qui nous touche au quotidien. Ça va être, par exemple, la cantine scolaire, ça va être la gestion de l'eau, des réseaux d'énergie, électricité, gaz ou autre. Mais il m'a semblé que c'était peut-être un manque. Et puis comme je m'intéresse aussi à la question des services publics locaux, c'était une occasion aussi de m'y frotter un peu. Voilà, donc je vais essayer de faire une intervention claire, pas trop longue, on m'a dit. Et puis après, bah, vous pourrez poser vos questions. Donc j'ai fait des études de sciences politiques et d'affaires publiques donc à l'Université Paris 1 et je suis aussi militant politique au Parti de gauche et par ailleurs un militant associatif dans les MJC sur les questions de gestion publique de l'eau sur lesquelles je m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Moi ça m'intéressait beaucoup les questions de traité de libre-échange, mais comme je disais, la question du traité transatlantique était peu évoquée sous cet aspect-là. C'était beaucoup évoqué sur la question des normes sociales, la question des normes environnementales et la question de l'agriculture, principalement. Voilà, en lisant des articles, en lisant d'autres bouquins, notamment celui de Raoul-Marc Génard et d'autres, j'ai pu constater qu'il y avait quand même des petites bribes, des éléments qui pouvaient nous faire penser qu'il y avait un risque sur les services publics locaux. Donc j'ai essayé d'un peu pousser la question et à partir de là, essayer de faire des conjectures à partir des documents confutés, à partir des analyses des bouquins précédents et des analyses des ONG qui existaient. Récemment, je viens de voir que donc, Corporate Europe Observatory, qui est une ONG européenne, à Bruxelles, qui travaille sur la question des lobbies, justement, a publié une étude sur la question, sur l'impact des traités de libre-échange, et en particulier du TAFTA et du CETA, sur les services publics.
Ce sont des négociations discrètes, sauf qu'il y a plein d'informations disponibles pour en faire un livre.
Alors, il y a plein d'informations fuitées. En effet, les négociations sont très discrètes, pour plein de raisons. Notamment, donc la Commission européenne et le gouvernement américain arguent du fait qu'on ne peut pas dévoiler les positions publiquement et par conséquent, ils ne les dévoilent pas. Et la Commission européenne a commencé, sous la pression de l'opinion publique et de la société civile et des ONG, à en publier certaines, principalement les positions de départ, et à faire des espèces de comptes rendus, des rounds de négociations. Et le dernier round de négociations, comme ils appellent, tour de table, s'est déroulé en début octobre donc, de cette année, c'était le 15e. Mais en effet, les négociations sont extrêmement discrètes. On n'a pas accès aux documents, on n'a pas accès aux positions finales sur chaque chapitre, on n'a pas accès, enfin, il faut être député, aller dans une salle très précise au Parlement européen, à la Commission, sans prendre de notes, sans prendre de photos, pour avoir accès aux documents, extrêmement compliqué. Donc ensuite, d'en tirer quelque chose de réel et de concret pour ceux qui veulent lutter contre ce traité. Et du côté américain, on ne publie absolument rien. Pourtant, la plupart des lobbies et des grandes entreprises
qui font du lobbying auprès de la Commission européenne ou auprès du gouvernement américain ont accès aux documents, puisque les gouvernants européens ou américains se fondent beaucoup sur leurs positions, qui existent depuis longtemps. C'est des positions qui étaient connues et qui sont portées depuis les années 90. Pour un exemple là que j'ai relu récemment, c'est que Mme Malmström, qui est commissaire européen au commerce, donc c'est elle qui gère les négociations pour la Commission européenne, a rencontré dans les 6 premiers mois de son mandat, donc mai 2014 donc les 6 premiers mois, a rencontré sur 122 lobbies, 100 étaient privés, 22 étaient publics. Donc lobby, la Commission européenne, dedans, elle englobe à peu près tout. Hein, c'était représentants d'organisations patronales, etc. Il y a des ONG américaines qui se plaignaient du fait, notamment, qu'elles ne se sentaient pas du tout écoutées par le gouvernement américain, contrairement aux grandes entreprises, et notamment les industriels américains. Je crois que c'était de l'ordre de 90% des consultations étaient à destination des lobbies industriels. Donc en effet, il y a peu de documents qui circulent. Cependant, il y a quand même des fuites qui sont orchestrées, qui arrivent souvent donc, par le biais des ONG. Alors, comme les ont probablement des fonctionnaires qui ont un peu plus de conscience que d'autres. Et donc, ils font fuiter ces informations. Sur la base de ces informations, on peut faire quand même des conjectures et des analyses assez approfondies. D'une part, au départ, il y a quand même le mandat de négociation. Maintenant, il y a un peu de publicité sur les différents rounds de négociation. Et avec ces fuites, par exemple, Greenpeace en avait fuité un grand nombre. Récemment, il y a sur l'énergie, c'était. Récemment, il y en a eu une sur l'environnement. Donc voilà, il y a un certain nombre de parlementaires, d'ONG qui s'activent, qui nous permettent d'accéder à certains documents.
TAFTA, il me semblait que c'était enterré. Vous allez nous dire que non.
Non, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est vrai que beaucoup de commentateurs, dès le moment où j'ai écrit le bouquin, pensaient que le TAFTA allait être enterré parce qu'ils estimaient que c'était beaucoup trop large et que ça créait trop de crispations sur la question de l'ouverture des marchés publics, les États-Unis ne veulent pas, sur la question de l'inclusion ou non des services financiers, l'Union européenne pousse, les États-Unis refusent, sur la question de l'agriculture, notamment, et des indications géographiques. Bon, il y a un certain nombre de crispations qui font que c'était plus compliqué pour les deux exécutifs de Commission européenne et gouvernement américain de négocier entre eux que pour la Commission et le Canada. Et en plus, là, on va voir qu'avec il y a les élections, on entre en phase électorale. Les deux candidats se sont plus ou moins, on va dire, prononcés contre. Donald Trump contre, mais avec Donald Trump, on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Mais il y a quand même l'échéance électorale française et l'échéance électorale allemande en octobre 2017. Donc ça va, on entre dans une processus de ralentissement, malgré la volonté d'Obama à l'époque, d'essayer d'accélérer les choses. Il avait essayé de faire passer un certain nombre de procédures parlementaires au niveau du Congrès pour accélérer, ce qui n'a pas marché. Cependant, 80% des entreprises américaines ont une filiale au Canada. Donc, de ce que j'ai lu encore tout à l'heure, ça représente plus de 50 000 entreprises. Donc, via le CETA, les entreprises américaines contourneront l'absence d'accord pour l'instant par le TAFTA en passant par le CETA et pourront tout de même, avec leur filiale, attaquer par exemple les États dans le mécanisme de État investisseur, le mécanisme de règlement des arbitrages, peut-être qu'on parlera.
Ça nous engage à quoi ?
Il peut y avoir des exemples très concrets. Donc ça nous engage à quoi ? Par exemple, l'alimentation. Il y a eu des axes de campagne à la fois de certains partis politiques et d'ONG ou d'associations assez clairs là-dessus. À la fois l'introduction des OGM.
Là, l'Europe a dit non.
Alors là, le Canada est en train de négocier justement pour introduire trois types de maïs OGM.
On essaie de comprendre parce que d'un côté, on nous dit non, pas d'OGM en Europe. Et vous allez
Alors,
nous dire
je vais en parler
que...
En fait, oui, dans le CETA, il n'y a pas les OGM. Cependant, les OGM sont supposés revenir dans le mécanisme de coopération réglementaire. Parce qu'en fait, il y a trois aspects principaux à ce type d'accord. Suppression des barrières douanières, harmonisation des normes non tarifaires et tribunal d'arbitrage. Dans l'harmonisation des normes tarifaires, en fait, si vous voulez, c'est du droit évolutif. Il va y avoir un forum de la coopération réglementaire dans lequel les lobbies auront toute leur place, manifestement, où pourront se décider des évolutions réglementaires et probablement on peut s'attendre à ce que les OGM en fassent partie. Pour le TAFTA, il est clair que les États-Unis, par exemple, eux ont des traitements sanitaires pour le bœuf aux hormones et quand ils traitent les carcasses, par exemple, de volailles, c'est à la javel, c'est avec un certain nombre d'acides, avec des noms imprononçables. Donc voilà. Et ça, c'est clair que les États-Unis veulent que cette manière de faire continue au niveau européen et soit exportée au niveau européen. Comment ça peut marcher ? Via le mécanisme de coopération réglementaire.
Si les Américains ont ce type de procédé, j'imagine qu'ils ne le font pas contre la santé de leur population.
Le principe de précaution n'existe pas aux États-Unis. Dans l'Union européenne, jusqu'à aujourd'hui, il y a le principe de précaution qui fonctionne. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas la preuve qu'un procédé n'est pas nocif, on ne le fait pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est si on a la preuve qu'il est nocif, une fois qu'on l'a mis en commerce ou qu'on l'a mis en circulation, c'est seulement à ce moment-là qu'on réagit. Donc nous, on le fait ante, eux, ils le font après. Premièrement. Deuxièmement, globalement, les normes environnementales aux États-Unis sont bien plus faibles, notamment dans l'agriculture, que dans l'Union européenne. Même si on peut estimer que dans l'Union européenne, c'est pas assez. En tout cas, ça, c'est sans commune mesure avec ce qui est fait aux États-Unis. D'où la question du traitement en chlore, en fait, qui, c'est pour des raisons commerciales, ça va juste beaucoup plus vite. C'est un certain nombre de traitements sanitaires qui sont effectués dans l'industrie agroalimentaire aux États-Unis, c'est pour des questions de coûts de production.
Si un étiquetage lisible pourrait se dire, le consommateur aura le choix entre un produit chloré importé des États-Unis et puis un autre dans un circuit plus court.
Ah oui, il aura le choix, mais est-ce que le porte-monnaie, il donnera le choix ? C'est ça la question. C'est qu'à partir du moment où le coût de production d'un poulet au chlore est à la vente beaucoup moins cher qu'un poulet élevé, fermier, etc., dans des bonnes conditions sanitaires et environnementales, quand on est issu de classe populaire, quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on a du mal à boucler les fins de mois, le choix, il est vite fait. Et donc on achètera le poulet au chlore parce qu'il coûtera moins cher. En plus, si les indications sanitaires sur les produits ne sont pas si claires que ça, ce qui est souvent le cas, ça n'incite pas non plus à la clairvoyance du consommateur.
Quoi ça impacte sur le régime des cantines, sur la régie de l'eau ?
Alors ça impacte pas encore, nous on pense que ça risque d'impacter. Par exemple, il y a plusieurs mécanismes qui protègent les investisseurs et qui font craindre pour les services publics. Comme je le disais, tous les échelons de gouvernement sont concernés par l'accord, de l'État à la collectivité. Donc les collectivités sont aussi concernées. Il y a le mécanisme de protection des investisseurs, ISDS, donc le tribunal d'arbitrage, qui va protéger les investissements d'une entreprise et par exemple qui va la protéger contre ce qui est considéré dans le mandat de négociation de la Commission européenne comme des expropriations directes ou indirectes, et contre des mesures qu'il juge déraisonnables. J'ai fait les signes des guillemets même si on ne les entend pas à l'oral. Tout ça pour dire que ce sont des concepts flous sur lesquels on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que quand on fait une réelle expropriation, ça compte ? Quand c'est une nationalisation ou une municipalisation, ça compte ? Quand on décide de changer les règles d'un service public, par exemple changer les tarifs, par exemple mettre des normes sociales plus avancées pour les agents qui y travaillent, pour avoir des normes environnementales un peu plus élevées, est-ce que ce sont des mesures déraisonnables ou des expropriations directes ou indirectes ? Parce que protection des investisseurs, c'est protéger contre des mesures qui vont entraîner une baisse de profit pour l'entreprise. Et les exemples de tribunaux d'arbitrage, parce qu'il y a beaucoup de tribunaux d'arbitrage, 3200, aujourd'hui dans les accords de libre-échange souvent binationaux, montrent que justement ces évolutions réglementaires, ces évolutions législatives, décidées souvent par les États, ont pour conséquence que les États sont attaqués. Angela Merkel et son gouvernement décident de sortir du nucléaire, elle se fait attaquer par une entreprise suédoise de nucléaire qui s'appelle Vattenfall. Récemment, le gouvernement Obama, l'administration Obama, décide de ne pas lancer le grand projet du Keystone, du pipeline, qui passe par le Canada, qui traverse les États-Unis. Il se fait attaquer par une entreprise canadienne. Et les exemples sont légion. Au niveau local, ce sera la même chose. C'est d'autant plus risqué qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en Europe, il y a un mouvement de remunicipalisation de la gestion de l'eau. Notamment en France, la gestion de l'eau, elle est détenue à peu près à 70% en volume par les majors, donc Veolia, Suez, la SOR. Or, il y a un mouvement de remunicipalisation. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Nice, on l'a vu à Grenoble, on l'a vu, etc., dans plein de villes.
Vivien Rebière, auteur des territoires face au grand marché transatlantique, et c'est paru aux éditions Bruno Le Prince, et l'invité du magazine.
il y a un mouvement de remunicipalisation. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Nice, on l'a vu à Grenoble, on l'a vu, etc., dans plein de villes. Et dans des villes plus petites aussi. Est-ce que ces mouvements-là seront considérés comme des atteintes aux investisseurs, comme une expropriation, ou pas ? C'est une question. C'est d'autant plus une question que le TAFTA prévoit des mesures qui s'appellent de statu quo et de cliquer. Le principe, c'est qu'à partir du moment où on a privatisé ou libéralisé un service, on ne peut plus revenir en arrière. Donc on ne peut plus reprendre en gestion publique. Et donc, nécessairement, si on le fait, on porte atteinte aux investisseurs potentiels ou aux investisseurs qui étaient, si par exemple, auront un contrat. Donc ça, c'est clair qu'à ce niveau-là, pour la gestion publique de l'eau, pour la gestion globale au niveau énergétique, par exemple la géothermie semi-profonde qui se développe beaucoup en France également, ça va créer des problèmes. Parce que les collectivités qui voudront le mettre en place, et c'est bien légitime, et moi je les soutiens, feront face à des contestations au niveau du tribunal d'arbitrage. En moyenne, 5 millions d'euros de procédures d'arbitrage, procédures juridiques. Hein. Après, il faut payer si on a perdu. Soit donc c'est on a perdu, on paye, soit c'est un accord à l'amiable. Et si c'est un accord à l'amiable, soit ils payent, soit ils se conforment à ce que veut l'entreprise en question. Donc il y a un vrai risque d'avoir des élus locaux totalement enferrés dans cette logique-là, et qui ne peuvent pas en sortir, alors qu'ils sont, par exemple, élus pour remunicipaliser un service de l'eau, pour mettre en place une gestion publique de l'eau. Sur la question des cantines scolaires, aujourd'hui aussi, et par exemple, il y a une loi récemment qui est passée à l'Assemblée nationale, portée par Europe Écologie Les Verts, sur l'introduction et augmenter la part du bio dans les cantines scolaires. Donc c'est une très bonne chose, mais c'est un marché public. Or, aujourd'hui, les marchés publics devront avoir une totale... Comment dire ? Il n'y aura pas de préférence... Il n'y a pas encore, il n'y a pas de préférence locale aujourd'hui dans les marchés publics européens, mais manifestement, même des préférences en termes sociaux, en termes environnementaux, ça semble compliqué. Or, il y a des clauses sociales et environnementales qui sont possibles dans les marchés publics en France. Donc, ce sera très compliqué, par exemple, d'essayer de mettre en place l'approvisionnement de produits bio, par exemple de légumes ou de fruits bio, en circuit court, donc c'est-à-dire avec les agriculteurs du coin. Parce que, par exemple, on ne peut pas donner des critères kilométriques, on ne peut pas donner de critères d'insertion, on ne peut pas donner de critères de localisation. Et par ailleurs, une entreprise pourra dire, une entreprise de service de cantine, pourra dire « je me sens exproprié » si elle avait auparavant le marché ou la délégation de service public. Elle pourra dire « je ne me sens pas à égalité de concurrence par rapport à un groupement d'agriculteurs qui, pour X ou X raisons, a la bienveillance de l'exécutif local. » Et dans ce cas-là, que peut faire la collectivité ? Ça reste très compliqué.
Qui tranchera ?
Un tribunal d'arbitrage. Donc comme je disais, la plupart des traités de libre-échange aujourd'hui en contiennent. Donc c'est pas un vrai tribunal, mais c'est du vrai arbitrage privé. Donc c'est une cour arbitrale, c'est-à-dire que ce sont des juges privés, la plupart du temps qui ont d'autres activités de conseil juridique, qui sont des avocats souvent, ou des juristes, et qui sont mandatés par le tribunal pour organiser le règlement d'un litige entre un investisseur et une puissance publique. Et il y a plein de problèmes à ce tribunal d'arbitrage. Ça, c'est le mécanisme global. Il y a plein de problèmes, d'une part, parce que la plupart de ces spécialistes de l'arbitrage sont nord-américains. J'ai lu, et je l'ai marqué dans le bouquin, qu'il y avait 15 arbitres qui concentrent, alors j'ai plus chiffre, me semble-t-il, de mémoire, c'est 55% des arbitrages. Donc ce qui est énorme. Quand vous avez 15 arbitres qui concentrent une telle masse d'arbitrages, c'est totalement inconcevable. Ensuite, on peut supposer que ces arbitres, étant donné qu'ils ont comme clients, par ailleurs, les multinationales en question dont ils sont censés organiser l'arbitrage, sont orientés. C'est ce qu'on peut craindre.
Mais ce n'est pas l'idée qu'on a d'un arbitre.
Les tribunaux d'arbitrage ne dépendront pas d'un État. Ce seront des cours privés. Et par conséquent, ils seront payés à l'arbitrage. Donc ils ont intérêt à ce que multiplient les arbitrages. Donc les avocats, également, vont démarcher les entreprises pour savoir qui est lésé pour engager des poursuites. Parce que chacun a intérêt à ce qui est de la multiplication des arbitrages. Et ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de faire de l'arbitrage. Plusieurs millions d'euros. Donc étant donné leur source de financement qui n'est pas publique, étant donné leur origine, où ils ne se sont pas des juges au sens issus d'un corps de la magistrature, étant donné leur incontance avec, du fait de leur carnet de clients, du fait des milieux privés, on peut supposer très logiquement qu'ils vont favoriser les multinationales ou les entreprises qui iront recours. Et c'est d'autant plus quand on voit les chiffres globalement de l'arbitrage, il y a une multiplication et il y a des entreprises qui demandent des sommes pharaoniques. Lone Pine qui a attaqué et qui attaque encore donc le Canada pour cause du moratoire du Québec sur les gaz de schiste demande 200 millions. Donc c'est clair que ce sera une perte financière énorme pour les États. Et que les arbitres ne sont rien des arbitres. Parce que leur arbitrage n'est pas organisé de manière neutre.
comment un gouvernement peut accepter ça, sauf si il pense que c'est un contrat ou un partenariat qui plaide en sa faveur.
Mais ça, c'est
d'un côté comme de l'autre.
C'est la bonne question et c'est la grande question. Pourquoi ils font ça? On se demande bien. Alors, les arguments évoqués par les gouvernements, c'est la création d'emplois et la croissance. Bon, l'étude commandée même par la Commission européenne fait état d'une croissance assez faible qui ne dépasse pas 1%, c'est de l'ordre de 0,5%, grâce au TAFTA. Et d'autres études économiques qui sont plus indépendantes suggèrent que ça ne va pas du tout être en croissance. Il y a peut-être même des pertes d'emplois et des destructions de filières qui vont s'opérer. Je pense notamment à l'agriculture et notamment aux PME. Il y a une étude très récente qui est sortie sur la perception des PME allemandes quant au TAFTA. Il y a 62% d'entre elles qui pensent que ça va leur être défavorable. Même la Commission européenne a admis le fait qu'il allait y avoir une énorme restructuration de la filière agroalimentaire en Europe, du simple fait que le rapport des exploitations en Europe et aux États-Unis, alors c'est dans le bouquin, mais là j'ai pas le chiffre sur moi, et c'est en commune mesure, quoi. Les exploitations agricoles européennes sont beaucoup plus petites par rapport aux américaines, et elles n'ont pas du tout les mêmes process de production, comme on le disait, au niveau des normes environnementales et sanitaires. Par conséquent, la production coûte plus cher, et par conséquent, si une fois qu'il va y avoir un certain nombre d'importations de produits américains sur le sol européen, les petits producteurs ne pourront pas concurrencer. Leur seul moyen, ce sera la concentration d'exploitation. Donc, au détriment des plus petits, en faveur des plus gros, et en défaveur, c'est sûr, de la qualité de l'alimentation.
Mais est-ce que ce n'est pas pensé chez nos gouvernants comme une alternative à l'hégémonie chinoise?
Il y a plusieurs arguments. Bon, le traité transatlantique, ça fait longtemps, depuis les années 90, qu'ils essaient de le faire passer. Il y a eu l'accord multilatéral d'investissement refusé par Jospin en 98. Donc, ça date depuis longtemps, c'est promu et c'est porté par les lobbies industriels américains. Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui. Le premier, c'est en effet contenir la poussée des pays émergents, en particulier la Chine, dans le commerce mondial. Les États-Unis et l'Europe, c'est 40% du commerce mondial, 800 millions d'habitants. L'objectif avec ce TAFTA et avec aussi le CETA, en fait, c'est d'organiser, si vous voulez, de conserver l'hégémonie commerciale en imposant les normes et la suppression des barrières douanières à tous les autres. En se disant, quand on a quasiment la moitié du commerce mondial avec les principaux pays industriels, les autres pays seront obligés de s'aligner sur nos normes pour continuer à commercer. Et ce, d'autant plus que les États-Unis ont mis en place le Trans-Pacific Trade Partnership avec les pays d'Asie du Sud-Est, excluant volontairement la Chine, qui est à peu près le pendant du TAFTA en pierre, pour les pays de l'Asie du Sud-Est avec les États-Unis. Donc l'objectif des États-Unis, c'est clairement de retrouver et de conserver son hégémonie commerciale au niveau mondial, et en quelque sorte de se remettre au centre du jeu. Donc ça, c'est le premier élément géopolitique. Et cet élément géopolitique, il recouvre aussi une vision, on va dire, culturelle des rapports de force et des rapports économiques. C'est Michael Froman, le négociateur en chef des États-Unis, qui a qualifié le TAFTA d'OTAN économique. OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Autrement dit, il y a l'OTAN sur le plan militaire et diplomatique, qui protège les pays occidentaux et l'Europe. Et on va avoir le TAFTA, qui va protéger aussi sur le plan commercial. C'est comme ça que c'est vendu. C'est-à-dire, on va vous protéger contre la Chine, on va vous protéger contre la Russie, etc., contre les autres pays émergents. Deuxièmement, pourquoi maintenant on fait des accords bilatéraux de libre-échange? Parce que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est grippée. Son fonctionnement est grippé pour plusieurs raisons. C'est que la poussée des pays émergents font qu'un certain nombre d'entre eux, et notamment l'Inde très récemment, a refusé certaines mesures de libre-échange. Là, c'était du soutien en subvention, je crois, aux producteurs, si je m'abuse, de riz, mais il faudrait que je vérifie. Et par conséquent, à l'OMC, c'est des décisions à l'unanimité, au consensus. En tout cas, si ce n'est pas l'unanimité, c'est à des décisions à large majorité. Donc c'est plus difficile d'obtenir un accord. Et donc depuis plusieurs années, un certain nombre d'observateurs constatent que l'OMC ne fonctionne plus. Or, l'objectif d'un certain nombre de multinationales américaines et des gouvernements américains et de la Commission européenne, c'est quand même de pousser toujours sur le libre-échange. Parce que pour eux, c'est de la croissance et de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui aussi, on s'aperçoit que les marges pour faire du profit et donc de la croissance, de leur point de vue, s'amenuisent. Et donc, il faut aller toujours plus loin vers toucher aux services publics, toucher aux normes sociales et environnementales, pour grappiller là où il y avait des monopoles publics, pour continuer à faire du profit. C'est ce qui explique les mouvements continus depuis le milieu des années 90 sur les libéralisations et les privatisations d'entreprises publiques ou de services publics.
Merci à Vivien Robière, auteur des Territoires face au grand marché transatlantique, essai paru aux éditions Bruno Le Prince, pour sa libre participation à ce magazine, réalisé avec le concours du collectif Stop TAFTA 44.